Vous écoutez France Culture. Le journal de midi et demi avec Benoît Bouscarel aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. L'avenir de l'Europe, évoqué ce matin à Paris entre Emmanuel Macron et Sébastien Kurz, le chancelier autrichien qu'il recevait à l'Élysée. Les flux migratoires, la montée des populismes dont Kurz a profité pour arriver au pouvoir et le Brexit. Les sujets étaient nombreux. Développement dans un instant avec Marie-Pierre Véraud.
Et justement, le Brexit, toujours en question. Theresa May continue son forcing. Ce sera mon accord ou il n'y aura pas d'accord du tout, explique ce matin la première ministre britannique. Correspondance dans votre journal, Benoît Bouscarel, d'Antoine Gignot.
Dans la page internationale de ce journal, nous évoquerons également l'avenir de la Syrie, dont une partie se joue tout à l'heure à Sotchi, entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. Claude Brouillot nous attend en direct de Moscou.
En France, une défection qui abîme encore un peu plus l'image d'une majorité présidentielle en marche. Frédéric Dumas, député des Hauts-de-Seine et vice-président de la Commission des affaires culturelles, annonce quitter la République en marche, tout en précisant qu'elle reste fidèle à Emmanuel Macron. Explication de Stéphane Robert.
Et puis nous évoquerons également ce coup de tonnerre dans la vie politique de la capitale. Coup de tonnerre que représente la décision de Bruno Julliard, désormais ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo. Il vient d'annoncer sa démission sur fond de vifs désaccords avec la maire de Paris. Explication, éclaircissement et contexte avec Adrien Toffolé. Invité du journal tout à l'heure, Xavier Marant, co-secrétaire national du SNES-FSU. Questionné par Hakim Kasmi, il réagira à l'annonce des 1800 suppressions de postes faites ce matin par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Dans la deuxième partie de la grande table, Olivia.
Faut-il rendre la langue plus ouverte ou au contraire la protéger des influence du monde extérieur, des autres langues, mais aussi d'une sorte de privatisation qui se jouerait actuellement. On en parle avec nos deux invités, le philosophe Pascal Chabot et l'écrivain Laurent Nunez. Ils seront avec nous à partir de 12h55.
À tout à l'heure, Olivia. L'avenir de l'Europe, confrontée à des crises politiques multiples, en question ce matin à Paris, assurant actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, l'Autriche envoie son chancelier, Sébastien Kurz, en tournée. Après une rencontre hier avec Angela Merkel, le jeune conservateur est reçu à l'Élysée ce matin. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour.
Dans la perspective du sommet de Salzbourg cette semaine, mercredi et jeudi, et dans le contexte de la poussée des populismes dont Sébastien Kurz a profité, par ailleurs, pour accéder au pouvoir, la discussion de ce matin a porté notamment sur le Brexit, nous y reviendrons, mais aussi sur la question migratoire qui déchire l'Union européenne. En recevant son hôte, Emmanuel Macron a voulu rappeler quelques principes. On l'écoute.
Je pense que nous pouvons utilement avancer tout en respectant nos valeurs et ce qui a fondé notre Union européenne, à la fois sur un meilleur contrôle des arrivées, une meilleure protection de nos frontières, par le renforcement de Frontex et du dialogue avec en particulier les pays de transit et d'origine, mais également par une amélioration de nos politiques de reconduite vers les pays d'origine pour celles et ceux qui sont interceptés en situation irrégulière et qui n'ont pas vocation à obtenir l'asile. Sur ces sujets, c'est un dialogue renforcé avec l'Union africaine et les pays d'origine et de transit qui s'imposent et sur lequel je pense que nous pouvons utilement, là aussi, avancer durant ce semestre pour assurer les équilibres de l'Europe et mieux protéger nos concitoyens.
Voilà, Emmanuel Macron ce matin à l'Élysée. Alors on le voit, Marie-Pierre, sans surprise sur ce dossier, c'est la fermeté qui est mise en avant, ce qui permet peut-être de dessiner les contours d'un accord à minima à Salzbourg cette semaine.
Et oui, dans cette tension toujours sur le continent entre l'accueil des demandeurs d'asile, ces valeurs d'humanité au cœur de l'Europe et la fermeture des frontières à toute immigration que promeuvent les pays de Visegrad, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, appuyés par l'Italie de Salvini, et soutenu aussi par le ministre de l'Intérieur autrichien, eh bien c'est vers cette seconde voie que l'accent est mis et que les 28 devraient s'entendre. Le renforcement des frontières, Frontex, le corps de garde frontières européen devrait passer à 10 000 hommes. Le renvoi des candidats à l'asile déboutés, là encore, Frontex pourrait être davantage sollicité et les pressions sur l'Afrique pour qu'elle retienne les candidats au départ et reprenne les illégaux dont l'Europe ne veut pas, ce qui vient d'être nommé dialogue renforcé. L'Afrique d'ailleurs, c'est Sébastien Kurz en a dit un mot également ce matin avec le sommet Union européenne-Afrique qu'il souhaite organiser à la fin de l'année. Là aussi, il s'agira de lier les perspectives d'aide et de développement à une meilleure gestion des frontières. Sébastien Kurz ne peut que se féliciter de la fermeté élyséenne affichée ce matin. Il lui faut en effet éviter un fiasco à Salzbourg sur le dossier migratoire. Et les déclarations de son ministre de l'Intérieur vendredi dernier n'étaient pas de nature à renforcer le consensus européen. Herbert Kickl a en effet proposé d'organiser en mer le tri entre migrants pour ne garder que ceux habilités à demander l'asile. Inacceptable encore en Europe, même si les thèses radicales gagnent du terrain. Alors peut-être à Salzbourg, Emmanuel Macron parviendra-t-il à faire avancer sa proposition d'une coalition des pays de bonne volonté qui se répartirait les migrants secourus en mer. Une dizaine de volontaires se seraient manifestés. L'Aquarius est reparti ce week-end, patrouillé au large des côtes libyennes. Et il s'agit d'éviter qu'il ne soit de nouveau ballotté aux portes de l'Europe avec des migrants en détresse. Mais on sent bien que pour contenir les velléités de Viktor Orban et de Matteo Salvini notamment, pour éviter un clash, les 28 vont une fois de plus se retrouver sur ce dénominateur commun, la fermeté.
Merci Marie-Pierre Vérot. Alors le président français et le chancelier autrichien échangeant sur l'avenir de l'Europe et de l'Union ne pouvaient évidemment pas faire l'impasse sur un des sujets du moment, les négociations autour du Brexit. Nous devons faire tout ce qu'il est possible de faire pour éviter un Brexit dur, a avancé Sébastien de Kurz, ce à quoi a souscrit dans la foulée Emmanuel Macron. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Correspondant permanent de France Culture à Londres, ces déclarations mettent encore un peu en lumière les difficiles négociations entre l'UE et le Royaume-Uni. Theresa May, encore ce matin sur la BBC, s'est montrée très ferme, hein, signe que ce n'est pas facile pour elle, ferme notamment à l'intention de son propre camp. C'est mon plan, sous-entendu un Brexit négocié, ou c'est rien du tout.
Oui, elle est très claire, Theresa May. Nous aurons un bon accord, dit-elle, avec une zone de libre-échange pour permettre le commerce de produits manufacturés et agricoles, un contrôle de l'immigration. Les modalités seront présentées cet automne, mais la Première ministre, selon sa formule habituelle, promet de redonner le contrôle au peuple en prévenant fermement, si le Parlement ne donne pas son accord, si les députés ne montrent pas leur soutien, la seule alternative, ce sera de quitter l'Union européenne sans aucun accord, avec pour seul cadre les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons débloqué les négociations avec Bruxelles, reprend Theresa May. Il n'y aura pas de changement de cap. Des solutions comme celle de la Norvège ou du Canada sont inacceptables. C'est faux, répondent au sein du Parti conservateur les partisans d'un Brexit dur comme Jacob Rees-Mogg et Boris Johnson. Dans sa tribune hebdomadaire au Daily Telegraph, l'ancien ministre balaye les plans du gouvernement d'une formule lapidaire. C'est une aberration constitutionnelle. Et chez les libéraux démocrates, Nick Clegg, ancien chef du parti, réagit lui aussi ce matin. Theresa May a tort de dire qu'elle n'a que deux options, dit-il. Ce n'est pas vrai. Selon lui, il faut allonger la période de négociation avec l'Union européenne.
Alors Antoine, on sait bien que le sujet de l'Irlande et de l'avenir de sa frontière terrestre est un des points de désaccord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Si on fait le point ce matin sur les solutions envisagées, en prenant en compte celle qui est avancée par Michel Barnier dans le Times, est-ce qu'on avance, Antoine ?
Eh bien, probablement un peu, oui, parce que ce n'est pas annoncé officiellement. C'est le Times qui s'est procuré une note de travail, mais Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne, serait en train de travailler sur un nouveau texte, un protocole pour gérer les allées et venues, les échanges de marchandises des deux côtés de la frontière irlandaise. Les propositions sont censées être distribuées aux gouvernements européens après la conférence du Parti conservateur le 3 octobre. Il y aurait un suivi à l'aide de code-barres. Les biens manufacturés, les colis, les palettes seraient envoyés et réceptionnés des deux côtés de la frontière par des entreprises de confiance administrées par des sociétés enregistrées auprès des différents gouvernements. Il n'y aurait du coup pas besoin de construire de nouvelles infrastructures. Parmi les autres possibilités étudiées, des caméras et des ordinateurs pour lire les plaques minéralogiques.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres pour France Culture. D'ici quelques dizaines de minutes, Recep Tayyip Erdogan doit arriver à Sotchi sur les rives orientales de la mer Noire pour y rencontrer une nouvelle fois Vladimir Poutine. Bonjour Claude Brouillot.
Bonjour Benoît.
Notre correspondant permanent en Russie, vous êtes en direct de Moscou dans le contexte d'une préparation active de l'offensive d'Idleb, même si les bombardements sur la province syrienne sont moins intenses ces derniers jours. On imagine bien ce qui va structurer la discussion entre les deux hommes, alors même que la Turquie vient d'acheminer de nouveaux renforts militaires, notamment des chars, sur l'un de ses postes d'observation dans la province d'Idleb.
Oui, il est certain que la relative accalmie de ces derniers jours à Idleb va être exploitée par Erdogan cet après-midi à Sotchi, en brandissant le risque d'une nouvelle catastrophe humanitaire à sa porte. Devant Vladimir Poutine en Russie, le numéro un turc va essayer à nouveau d'appeler au discernement entre la lutte nécessaire contre les groupes terroristes et la sauvegarde encore plus nécessaire des populations civiles et d'une opposition modérée. Cette posture oblige Vladimir Poutine officiellement à rappeler que la Russie s'efforce aussi de faire attention à ces milliers, des dizaines de milliers de familles prises au piège du conflit. Dans la réalité, le président russe a déjà laissé ses généraux assumer sur le terrain un calendrier de reprise de la province au profit d'Al-Assad qui irait jusqu'à la fin de l'année. Alors Vladimir Poutine va redire lui à Erdogan tous les dangers qui guettent aussi la Turquie si des groupes djihadistes se reconstituent à sa frontière sud-ouest, avec, comme au sommet de Téhéran il y a 10 jours, le risque d'un affrontement entre deux logiques qui se termine là encore sur un constat d'échec, à moins tout simplement que Erdogan soit venu à Sotchi pour gagner du temps et seulement repousser l'échéance de quelques jours ou de quelques semaines. Le temps, par exemple, encore, de renforcer ces 12 positions dont vous parliez, positions d'observation turques dans la région d'Idleb.
Merci Claude Brouillot. Hier sur le terrain en Syrie et justement dans la province d'Idleb, plus de 300 médecins et personnels soignants ont manifesté. Ils s'inquiètent de l'offensive annoncée du régime de Bachar al-Assad et ils appellent la communauté internationale à les protéger. La page politique de ce journal, avec cette annonce qui tombe très mal pour Anne Hidalgo, à moins de 2 ans des élections municipales. La maire de Paris qui est lâchée ce matin par son premier adjoint. Bonjour Adrien Toffolet.
Bonjour Benoît.
Du service politique de France Culture. Bruno Julliard vient d'annoncer il y a un peu plus d'une heure qu'il quitte ses fonctions sur fond de profond désaccord.
Oui, il s'est lancé ce matin dans un réquisitoire particulièrement sévère avec, dans un premier temps, une critique du bilan de la maire de Paris. Pour lui, l'orientation générale de sa politique est la bonne. C'est son exécution qui est défaillante. Et Bruno Julliard de faire peut-être le pire reproche possible à un démocrate au pouvoir, celui du repli sur soi et de l'autoritarisme. Face au mécontentement, j'ai eu l'occasion de regretter un déficit d'humilité et de compréhension, explique Julliard, qui donne les exemples de la gestion de la piétonnisation des voies sur berge ou encore des fiascos Vélib et Autolib. Mais ce qui ressemble déjà à un requiem amer signé du premier adjoint d'Anne Hidalgo va encore plus loin, car si le bilan, on le comprend en le lisant, n'est pas tout noir sur le fond, le projet d'avenir, lui, est bel et bien noir à ses yeux. Les grandes orientations réflexion, l'armement de la police municipale, la gratuité des transports en commun sont même taxées d'opportunisme et de se demander si la maire de Paris sera en capacité de proposer un projet à la hauteur et de le mettre en œuvre. Bref, comme vous le disiez, ça tombe très mal pour Anne Hidalgo. Les derniers sondages d'opinion la donnent déjà au coude à coude avec le marcheur Benjamin Griveaux. Le Hidalgo bashing tourne à plein régime. Et donc maintenant, son bilan est critiqué sur la méthode, son nouveau projet sur le fond par celui qui a été pendant 4 ans son bras droit, le numéro 2 de l'exécutif parisien, celui sur qui reposait la survie vacillante de la majorité municipale, majorité indispensable à Anne Hidalgo pour se représenter en 2020.
Voilà, Anne Hidalgo qui prend acte de la démission de Bruno Julliard et qui nomme Emmanuel Grégoire, premier adjoint. Merci Adrien Toffolet. La politique toujours est cet art aussi vieux qu'elle du désaveu et du lâchage. Deuxième exemple aujourd'hui avec cette décision de Frédéric Dumas, député de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, de quitter La République En Marche. Une décision qui n'a rien d'épidermique ou d'irréfléchi. Frédéric Dumas la motive d'ailleurs cette décision dans un entretien qu'elle accorde à nos confrères du Parisien ce matin. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour.
Chef du service politique de France Culture. Vous avez lu cet entretien et vous y voyez de manière assez flagrante un nouveau signal d'alerte pour la Macronie.
Oui, Frédéric Dumas n'est pas la première députée à faire défection. Il y a quelques mois, Jean-Michel Clément, député de la Vienne, avait déjà rendu son tablier, mais il avait démissionné parce qu'il avait anticipé la procédure d'exclusion que s'apprêtait à lancer La République En Marche. Là, ça n'a donc rien à voir, d'autant qu'à la lecture de l'interview que la députée des Hauts-de-Seine accorde aux Parisiens, on peut imaginer que ça s'inscrit dans une sorte de dysfonctionnement plus global de la Macronie et de la manière dont le président de la République exerce le pouvoir. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle parle déjà de désaccords sur la forme, sur la méthode. Par exemple, pour la réforme de l'audiovisuel public dans laquelle elle est impliquée, on n'a eu aucune réunion avec le gouvernement, explique-t-elle, si ce n'est une réunion avec le Premier ministre une heure avant les annonces. Les décisions étaient déjà prises. Et quand elle a voulu discuter, c'était un crime de lèse-majesté, dit-elle, on l'a considéré comme une frondeuse. Elle pointe aussi des désaccords sur le fond, listant tout ce qui semble depuis quelques mois s'écarter des promesses initiales d'Emmanuel Macron. Sur l'exemplarité notamment, François Bayrou et Marielle de Sarnez avaient démissionné avant une quelconque poursuite dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem. Là, Richard Ferrand, malgré l'affaire des mutuelles de Bretagne, est propulsé à la tête de l'Assemblée nationale. Dans l'affaire Benalla, dans le fait qu'Alexandre Benalla se permette d'insulter les sénateurs de la commission d'enquête, ça montre, selon elle, qu'il bénéficie encore d'une forme d'impunité. On a le droit de ne pas être infaillible à condition de se reprendre, assène-t-elle. Concernant les réformes, on met la transformation du pays, selon Frédéric Dumas, aux mains de technocrates hors sol, voire cyniques, et certaines décisions se réduisent à des coupes budgétaires. Et elle en arrive à cette conclusion, Non seulement ça n'a pas de sens, mais ça ne peut pas fonctionner. Bref, elle quitte La République En Marche et retourne dans sa famille d'origine à l'UDI. Et on a le sentiment avec cette démission qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a eu le départ de Nicolas Hulot, la mise en garde la semaine dernière de François Bayrou qui disait déjà qu'on est en train de s'éloigner des promesses initiales de Macron. Et puis là, le départ de cette députée. Je veux qu'Emmanuel Macron réussisse, dit-elle encore dans cette interview, comme François Bayrou. Mais manifestement, elle estime qu'il n'en prend pas le chemin et laisse penser que quelque chose s'est peut-être ou est en train de se dérégler au plus haut sommet de l'État.
Stéphane Robert, alors dans ce contexte, l'exécutif tente de faire front commun pour défendre Emmanuel Macron, dont l'image est ces temps-ci fortement dégradée. Illustration de l'arrogance dont le chef de l'État est souvent accusé, notamment dans les enquêtes d'opinion. Cette discussion au cours du week-end dans les jardins de l'Élysée avec un jeune horticulteur au chômage, le président lui a tout simplement conseillé de changer de métier et d'aller travailler dans l'hôtellerie-restauration. Les propos ont choqué, mais il ne fallait voir là que bon sens et franc-parler revendiquent encore ce matin différents ministres. Gérald Darmanin, François Drugy ou encore Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer justement, et on en vient maintenant à cette annonce en matière d'éducation. Dans les colonnes du Figaro et sur France Inter, le ministre de l'Éducation nationale a expliqué ce matin que 1800 suppressions de postes sont d'ores et déjà programmées au sein de l'Éducation nationale, moins pour faire plus. Au moins 400 suppressions concerneront des services administratifs, les autres toucheront le second degré, soit les collèges et les lycées, pourtant promis à une augmentation de fréquentation en raison de la hausse démographique, ainsi que l'enseignement privé. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Benoît Bouscarel.
Dans le même mouvement, Jean-Michel Blanquer explique que son budget sera augmenté de 850 millions d'euros et qu'il a le souci de la revalorisation des enseignants. Concrètement, que peuvent attendre les principaux concernés, Hakim ?
Effectivement, en contrepartie, pour faire face à la crise des vocations pour le métier d'enseignant, il prévoit d'augmenter les professeurs de 1000 euros par an d'ici la fin du quinquennat. Pour les professeurs en zone d'éducation prioritaire, la prime pourrait aller jusqu'à 3000 euros par an, sauf que les deux tiers de cette somme, soit 2000 euros, eh bien cette somme-là sera au mérite. Les syndicats dénoncent donc une casse sociale, estimant que l'école n'est plus la priorité du gouvernement, d'autant qu'avec la hausse démographique, il y a déjà 26 000 élèves de plus cette année au collège et 32 000 de plus au collège l'année prochaine. Pour compenser les enseignants en moins, le ministre veut inciter les enseignants à travailler plus avec au moins 2 heures supplémentaires obligatoires contre 1 heure actuellement, des heures supplémentaires qui seront exonérées de charges sociales. Le ministre compte aussi sur la fusion des académies après celle des régions, ce qui fera forcément des doublons, estime-t-il, et donc des postes en moins. Enfin, il justifie ces suppressions par la réforme du lycée et du bac. Avec la fin des filières S, EL et L, il compte mutualiser le plus de cours possible, au moins la moitié d'entre eux, notamment l'histoire-géographie et les mathématiques, ce qui n'empêchera pas du coup d'avoir des classes de 35 à 40 élèves, notamment au lycée.
Hakim Kasmi, vous restez avec nous. Invité de ce journal, Xavier Maran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le co-secrétaire national du SNES-FSU. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le ministre semble donner corps ce matin à une vieille promesse, celle d'augmenter enfin les enseignants, et notamment en début de carrière. Vous ne pouvez pas trouver ça dommage, j'imagine.
Ah ben, si c'était la réalité, on ne trouverait effectivement pas ça dommage. Le problème, c'est que c'est loin d'être la réalité. Puisque les 1000 euros qu'indique le ministre, ce ne sont que des heures supplémentaires. Et donc du coup, en fait, le ministre remet au devant de la scène le célèbre « Travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy.
Hakim Kasmi.
Xavier Maran, aujourd'hui, concrètement, peut-on faire plus avec moins ?
Non, c'est totalement impossible de faire plus avec moins. On voit déjà que les conditions de travail des élèves comme des professeurs sont extrêmement dégradées dans les collèges comme dans les lycées. Dans les collèges, le nombre de classes qui sont à 30 élèves a augmenté encore à cette rentrée. Dans les lycées, on compte plus des deux tiers des classes qui ont plus de 35 élèves. Ce ne sont pas des conditions de travail acceptables. Et comme le ministre entend supprimer encore des postes à la rentrée prochaine et que, comme vous l'avez indiqué précédemment, il y aura plus d'élèves encore à la rentrée prochaine qu'il y en a cette année dans les collèges et les lycées, eh bien, on voit tout de suite que le nombre d'élèves par classe va continuer d'augmenter. Donc non, on ne peut pas faire mieux avec moins.
Comment expliquer ce paradoxe ? À la fois, on ouvre des classes dédoublées en zone d'éducation prioritaire, en CP et en CE1, et à la fois, on voit que les effectifs vont augmenter dangereusement et du coup pénaliser les élèves les plus fragiles.
Alors, c'est une question qu'il faudrait poser au ministre. Comment lui peut justifier ce paradoxe? Parce qu'en fait, avec le dédoublement des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire, il fait la preuve justement que la question des effectifs d'élèves par classe est une question centrale pour permettre la réussite de ces élèves-là. Et en fait, au collège et au lycée, il fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il a une politique qui va au contraire augmenter le nombre d'élèves par classe. Vous citiez d'ailleurs dans votre intervention tout à l'heure la question de la réforme du lycée. Contrairement à ce que dit le ministre, la réforme du lycée a bien pour objectif des économies de moyens d'ampleur, puisque ça va permettre de regrouper des élèves dans des classes et donc de faire en sorte que tous les cours soient dorénavant à 35 élèves par classe. Quand je dis 35 élèves, c'est un minimum.
Alors une réforme du lycée qui est en cours et qui n'est pas forcément prête, on parle de janvier, on est à quelques mois de cette date fatidique. Vous-même, en tant qu'enseignant, comment envisageriez-vous d'avoir des cours mutualisés avec beaucoup d'élèves? Comment ça se passerait concrètement pour vous?
Ah ben, concrètement, ça se passera par une dégradation des conditions de travail, puisque en fin de compte, là où aujourd'hui on peut, dans un certain nombre de classes, pas toutes malheureusement, mais on peut encore parfois faire un petit peu de travail individualisé avec les élèves, eh bien là, quand les cours seront mutualisés, on ne pourra plus du tout individualiser les pratiques. Alors que c'est des orientations qui sont portées par l'inspection générale et par le ministère. L'intérêt des séries, c'était aussi de pouvoir plus orienter les disciplines et leur donner un contenu qui soit plus en relation avec les séries et les souhaits des élèves. Là, en supprimant complètement les séries, on va se retrouver avec un enseignement qui va être identique à tous les élèves. Et ça, malheureusement, on sait que c'est quelque chose qui ne permettra pas aux élèves de mieux réussir.
D'autant qu'on sait que c'est une école finalement à la carte qui se dessine, puisque si en théorie il devrait avoir 12 spécialités pour les premières et les terminales, dans les faits, faute de moyens, il n'y en aura qu'en moyenne 7.
Ah ben, de toute manière, la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire a publié une circulaire qui est limpide de ce point de vue-là. C'est que il faut que sur le bassin, dans un environnement proche, eh bien les élèves puissent disposer d'un maximum de spécialités. Sauf que qu'est-ce que c'est qu'un environnement proche dans des zones rurales? C'est parfois des établissements qui sont distants de 50, 100 km. Donc effectivement, l'offre de formation pour les élèves va se réduire. Et quand on voit les exigences qu'il y a maintenant pour rentrer à l'université et le couperet que représente Parcoursup aujourd'hui, eh bien pour les élèves, ce n'est pas un progrès.
Merci Xavier Marant, co-secrétaire national du SNES-FSU. Merci également à Hakim Kasmi. Une grève depuis plusieurs jours dans le plus important en termes de tirage des quotidiens de presse régionale française, Ouest-France. Ses salariés sont appelés à cesser le travail, notamment pour protester contre un projet de réorganisation qui doit se traduire par 56 suppressions d'emplois. Une réunion de négociation doit se tenir aujourd'hui. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour.
56 postes, mais l'inquiétude porte aussi, et de manière peut-être un peu plus générale, sur la vision à long terme de l'évolution de la PQR.
Mutualisation et digitalisation sont désormais des mots courants dans les médias, quels qu'ils soient, et ces deux logiques ont les mêmes objectifs. Faire plus avec moins, mieux n'est pas la question. Pour la presse écrite, les ventes papier reculent. Chez Ouest France, 715 000 exemplaires vendus en 2014, 660 000 aujourd'hui. Pour dégager des capacités d'investissement pour développer le numérique, le groupe a décidé de fermer, de réorganiser ses agences. Le groupe possède plusieurs titres, le Courrier de l'Ouest, le Maine Libre, Presse Océan, qui ont chacun des rédactions distinctes, bien implantées. Par exemple, dans la Sarthe et le Maine-et-Loire, Ouest France se vend 2 à 4 fois moins que ses titres locaux. La stratégie du groupe prévoit de supprimer plusieurs bureaux d'Ouest France dans ces départements, tout en maintenant la parution du journal. Mais ce seront les journalistes des titres soi-disant concurrents qui nourriront les pages locales. Voilà pour la mutualisation. Même chose sur le web. Vous multipliez les supports, vous diminuez le nombre de journalistes. Pour une direction, cela fait des économies. Pour les syndicats, c'est la diversité de la presse locale qu'on appauvrit, que l'on tue. Mais la direction, elle, veut créer un bureau à Bruxelles, ouvrir 2 postes à Paris et développer un pôle investigation à Rennes. Au total, 73 postes seraient supprimés et 17 autres créés, soit un solde négatif de 56 postes. La direction promet qu'il n'y aura pas de licenciement et qu'elle jouera sur les départs à la retraite. Objectif, économiser 3,5 millions d'euros par an.
Merci Annabelle Grelier. Une grève également chez nos confrères de Radio France Internationale depuis ce matin. Leur antenne antennes écoutées à travers le monde entier et le site internet de RFI peuvent en être affectées. Les correspondants à l'étranger et pigistes de la station, qui dépend du groupe public France Média Monde, réclament une meilleure protection sociale pour pouvoir continuer à remplir leur mission, notamment face aux risques encourus sur le terrain. Et puis cette dernière brève, 7 morts, un bilan très lourd au Vietnam lors d'un festival de musique à Hanoï, âgés de 18 à 30 ans. Les victimes sont de jeunes spectateurs qui ont consommé de la drogue. Les enquêteurs tentent de déterminer de quelle substance extrêmement dangereuse il peut s'agir. 5 autres personnes sont dans le coma. Un temps estival dans l'après-midi et des températures très hautes. On attend pas moins de 23 degrés pour les maximales sur le nord, le long des côtes de la Manche, et jusqu'à 34 voire 35 degrés en Nouvelle-Aquitaine sous l'effet du vent du sud. On est là de 4 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Attention au risque d'orage en fin de journée.